Bonjour à tout le monde, Boris Nazrovski de la SBL Sentier.be. Donc ici, moi, durant cette quinzaine de minutes, mon objectif ce n'est pas de vous présenter vraiment les aménagements à mettre en place au niveau des voiries, des petites voiries, de vous présenter quel type de revêtement doit être utilisé, mais plutôt de vous présenter les grands concepts que nous utilisons et dont nous faisons la promotion envers les communes, envers le public de manière générale, pour l'utilisation de la petite voirie dans les projets d'urbanisation et aussi de la promotion de la marche comme mode de déplacement. Alors, quelques mots tout d'abord sur l'histoire des chemins et sentiers. Rassurez-vous, je ne vais pas faire ici une présentation sur l'histoire des chemins et sentiers, enfin du moins une présentation complète, très intéressant, mais au niveau du temps, je vais être un peu juste, mais au moins rappeler quelques jalons importants, et notamment la fameuse mise en place en 1842 de la loi vicinale sur les chemins et sentiers vicinaux, et aussi des atlas qui vont être mis en place à cette époque. Atlas qui auront pour but de protéger l'ensemble des chemins et sentiers vicinaux pour permettre bien d'avoir des itinéraires qui soient les plus rapides, les plus directs entre les différents lieux de vie et aussi entre les lieux de vie et les endroits où on pouvait travailler, notamment pour permettre aux ouvriers d'aller à cette époque le plus rapidement travailler. Et donc 1841, on a un cadastre de la voirie vicinale qui est réalisé, on a la loi vicinale aussi qui va être mise en place, et donc durant de nombreuses années, ces chemins et sentiers qui forment un maillage très conséquent, très intéressant, vont être utilisés par les différents utilisateurs du territoire, les ouvriers, mais aussi le monde agricole, le monde sylvicole, etc. Néanmoins, ce réseau va un peu péricliter, va souffrir d'un certain nombre de choses, notamment deux éléments importants, à savoir le remembrement agricole, qui va faire en sorte que de nombreuses parcelles vont être fusionnées et donc on va avoir moins besoin d'autant de sentiers pour accéder à ces différentes parcelles, et aussi l'apparition de l'automobile comme mode de déplacement principal. Comme on a la voiture, on a moins besoin de se déplacer à pied, à vélo, et on va avoir toute une modification de la structure territoriale qui va se réaliser. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est certainement quelque chose que vous connaissez très bien. Quand on regarde les plans des années 1970-1980, on voit que tout est fait pour l'automobile. D'ailleurs, les fameuses cartes qu'on retrouve dans les centres des communes qui sont distribuées aux habitants, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve les voiries carrossables. La manière dont sont structurés les nouveaux quartiers est aussi faite pour la voiture. Exemple ici, un quartier au nord de Namur. Si je suis habitant dans ce quartier et que j'habite là-bas au nord-est et que je veux aller au sud-ouest, si c'est en voiture, c'est encore assez simple puisque j'y suis de manière assez rapide. Si je suis à pied, je suis obligé de suivre la voirie carrossale avec tous les détours possibles. On voit dans ce type de structure du territoire qu'on n'a pas de perméabilité entre les rues, entre les quartiers. Pour le piéton, je suis obligé d'aller sur la voirie carrossable en croisant les doigts pour au moins avoir au minimum un trottoir sur lequel je peux me déplacer. Ça, c'est un peu le constat. Là aussi, je fais des très gros raccourcis, mais on va dire fin des années 90. Année 2000, on parle de pic pétrolier, de changement climatique, de protocole de Kyoto, etc. Et on a vraiment une réflexion qui se met en place en se disant on va peut-être essayer de changer un peu de nouveau notre mobilité, essayer de sortir du tout à la voiture. Et on fait différents constats à cette époque, constats qui malheureusement sont toujours d'actualité, à savoir que quand on regarde les parts modales, on se rend compte finalement que la marche, elle est encore utilisée, elle est majoritaire jusqu'à 500 mètres, mais à partir d'un kilomètre, voire de 2 km, on est déjà majoritairement avec un usage de la voiture. Et là, on se dit, c'est quand même dommage, il y a quand même quelque chose qui pourrait être fait. Pourquoi on ne pourrait pas de nouveau plus utiliser la marche, le vélo, au niveau des modes de déplacement? Certainement, et en plus, qu'est-ce qu'on a comme outil pour favoriser la marche? Là, les chemins et sentiers viennent dans la réflexion. Quel constat on fait aussi? On fait le constat qu'on connaît de moins en moins bien son territoire. Ça, c'est une étude qui a été faite en Angleterre, et vous voyez le territoire connu par 4 générations. L'arrière-grand-père, le grand-père, la maman et l'enfant. Donc l'enfant connecté au monde, il a des amis aux États-Unis, Afrique du Sud, en Asie, etc. Mais finalement, il ne connaît pas son quartier, il ne connaît pas ce qu'il y a autour de chez soi. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas parcourir son territoire. Et comment on parcourt son territoire? en le parcourant de manière lente, à pied, à vélo de manière idéale. Et pour cela, il faut avoir un réseau, il faut avoir un maillage de petites voies. Donc on fait aussi ce constat finalement que l'on connaît moins bien son territoire. Et c'est un problème idéologique, mais c'est aussi un problème pour les communes. Les communes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent que les habitants se sentent bien dans leur territoire, qu'elles se rendent compte du patrimoine qu'elles ont chez eux. Et donc, si on veut que les gens connaissent, il faut qu'ils puissent parcourir le territoire. Et là aussi, on se rend compte que les chemins et sentiers, ce n'est pas simplement pour la balade du dimanche, pour le tourisme, mais qu'ils sont très intéressants au niveau du développement territorial. Autre constat que l'on fait, qui est toujours aussi d'actualité, c'est que le tout à la voiture a ses limites en termes d'aménagement du territoire, en termes d'environnement, de pollution sonore, de pollution olfactive, etc. Des problèmes sociétaux, la fameuse génération banquette arrière, où finalement les enfants ne savent plus se déplacer que s'ils sont conduits par les parents. Et là aussi, bien, de nouveau, on se dit, on peut peut-être revaloriser, remettre en évidence ces petites voiries qui vont vers des pôles, qui permettent de nouveau d'accès vers certains endroits d'une autre manière que en voiture. Donc ça, c'était un peu le constat historique très rapide au niveau de la petite voirie pour vous montrer que on ne veut pas être au niveau de la SBL dans une optique en disant en 1841 c'était bien, c'était comme ça. On sait bien qu'aujourd'hui on est en 2017, bientôt en 2018, mais que les chemins et sentiers, ce n'est pas quelque chose qui est lié qu'au tourisme, qui est ancien et qui date de 1841, que les chemins et sentiers, quand on veut parler d'aménagement du territoire, de mobilité, sont très utiles. Alors comment nous on propose de travailler? Quand on est contacté par les communes, ou que simplement nous on va vers les communes en disant ce serait intéressant de réfléchir à votre réseau, on les invite à travailler en différentes étapes. La première étape, c'est de savoir ce qui existe. D'avoir vraiment une idée générale, dans l'idéal au moins la commune, mais si ça pouvait être sur l'ensemble de la région Wallonne d'un coup, ce serait encore bien mieux, mais au moins savoir qu'est-ce qui existe au niveau de mon maillage des voies. Là, on peut utiliser différentes données, on peut utiliser le PIC de la région Wallonne, on peut utiliser les cartes et les données d'IGN qui ont été réalisées à une époque donnée, pour vraiment avoir une idée générale de la structure de ma voie. Voir qu'est-ce qui est carrossable, qui est non carrossable, est-ce que c'est aménagé avec des trottoirs ou non. Est-ce que c'est plutôt des petites voiries en terre ou en herbe? Voir aussi tout ce qui existe au niveau légal. Trop souvent, on part du principe, non mais ce chemin ou cette voirie, elle est labourée ou elle a été fermée, c'est déjà il y a 5, 10 ans, voire 29 ans. On arrête à 29 ans pour ouvrir un autre débat. Mais on oublie souvent que ce n'est pas parce qu'un chemin est privatisé qu'il n'existe plus. Et c'est pour ça, le document qui reste encore d'actualité au jour d'aujourd'hui, c'est l'Atlas de 1841, avec toutes les modifications qui sont présentes dans les communes et au niveau des provinces, et qui permet vraiment de voir qu'est-ce qui existe. C'est quelque chose de très important à prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'on voit parfois des gens arriver avec des projets urbanistiques, et on voit le projet s'implémenter dessus. Et puis on se rend compte qu'il y a des problèmes au niveau mobilité ou de connexion entre les quartiers. Et si on avait regardé l'Atlas qui est en dessous, on verrait qu'il y avait déjà, à l'époque, des liaisons qui étaient déjà très intéressantes et qui avaient été prévues. Et donc, ne pas toujours réinventer la roue, regarder qu'est-ce qui existe au niveau légal. Regardez aussi dans quel état sont les chemins et sentiers. Alors pour ça, nous, on travaille beaucoup avec des bénévoles qui vont réaliser des inventaires de terrain, voir dans quel état se situe la voirie. Quels sont les points positifs, les points négatifs que l'on va retrouver. Travailler avec les bénévoles, ça a plusieurs avantages. Ça permet de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. C'est vrai que surtout au niveau chemin et sentier, si on pouvait être payé pour parcourir 120 km dans les communes, ce serait quelque chose de très agréable. Mais concrètement, c'est assez compliqué. Ça permet aussi d'avoir un regard des habitants, d'avoir le regard sur l'ensemble d'une année des habitants. Puisque si vous faites un inventaire au mois de juin, vous avez peut-être de très bons sentiers, mais en connaissant de tous les problèmes qu'on va avoir au mois de mars ou au mois de novembre. Ça permet aussi de les impliquer vraiment dans le projet, d'écouter leur avis. Mais aussi les personnes âgées, dans le temps, il y avait ces liaisons qui étaient intéressantes, pourquoi ne pas les réouvrir? J'ouvre vite, je ferme une parenthèse, ne pas oublier que les bénévoles, que les citoyens peuvent être impliqués dans la gestion aussi des voiries. Par décret, c'est la commune qui a la gestion de la voirie communale, qui doit normalement procéder à son entretien. Faire appel à des bénévoles pour faire en sorte que des voiries soient utilisées, soient entretenues, peut être aussi une belle alternative. Donc là, on a le constat, on sait qu'est-ce qui existe, et ensuite, on peut travailler à différentes échelles. On invite souvent les communes à travailler à l'échelle communale, voir quels sont les pôles que j'ai au niveau de mon territoire et comment je peux les relier, en utilisant au maximum, bien entendu, la petite voirie. Avoir ce réseau, bien, ça permet d'avoir des alternatives à la voiture pour des distances, enfin pour des liaisons, même si parfois elles sont un peu longues. Ça permet aussi de bien savoir qu'est-ce que j'ai comme liaison intéressante. Là aussi, j'ai un nouveau projet qui va arriver. Tiens, est-ce que mon projet va se mettre entre deux pôles? Si oui, eh bien, je dois avoir bien en tête que je dois faire en sorte que mon projet permette toujours d'avoir cette liaison. Là aussi, on a parfois des liaisons via une petite voirie qui sont utilisées. Puis on a un nouveau projet, et finalement, le projet va couper cette liaison. Ou voir simplement si mon nouveau projet est un nouveau pôle. Et donc faire en sorte que mon nouveau projet ait bien des connexions vers les pôles existantes de mon territoire. On invite souvent les communes aussi à mettre en place des balisages, pas pour faire une surabondance de balisages, mais indiquer que finalement, en allant dans telle ou telle autre direction, on peut rejoindre des pôles. Voilà un balisage tout simple à mettre en place. Les voitures ont le droit à leur beau balisage et bien bleu. Pourquoi pas les piétons, les cyclistes ne pourraient pas aussi avoir un balisage qui leur indique comment aller d'un endroit à l'autre de la commune. Comme je disais, souvent c'est des distances plus longues, donc on est amené à traverser des zones plus agricoles. Quand on est sur des distances plus longues, on n'est pas obligé de partir sur des aménagements très importants. Par contre, bien, dès qu'on va se rapprocher des lieux de vie, être à l'intérieur des lotissements, ben là on peut réfléchir à faire en sorte que des aménagements soient mis en place. Ici, bien, on a une venelle, avouons-le, pas du tout sexy, pas du tout, ça ne m'attire, ça ne donne pas vraiment envie d'y aller. Pourtant, ça peut être quelque chose de très intéressant en termes de mobilité. Pourquoi pas y faire du land art? Pourquoi pas y mettre une balise indiquant qu'on rejoint telle rue ou autre? Pourquoi pas enlever le panneau qui dit qu'on ne peut pas circuler dessus? Voilà. Deuxième échelle sur laquelle travailler, aussi au niveau du quartier. Alors là, les exemples que j'aime bien prendre, c'est souvent lié aux déplacements scolaires. Pourquoi? Parce que quand on met en place des déplacements scolaires, et notamment des pédibus, donc des rangs vers l'école, et alors on est souvent à une échelle, on va dire à une distance de 1 voire 2 km autour de l'école. Et là, on a alors des réflexions sur comment favoriser les cheminements vers les écoles. On n'est pas obligé de faire ça que pour les pôles. Que pour les écoles, on peut avoir cette réflexion pour l'ensemble des pôles. Quels sont tous les cheminements possibles dans un rayon d'un ou de 2 km vers les pôles? Quels sont tous les problèmes que je vais pouvoir rencontrer? Comment je vais pouvoir les solutionner? Au niveau de mon quartier, réfléchir aussi à la perméabilité de mon quartier. Alors là, c'est un lotissement qui est aussi assez ancien, donc un village expo au niveau d'Ouarre, ce n'est pas un nouveau lotissement. Mais on voit que dans ce lotissement, il y a vraiment une perméabilité très impressionnante pour aller d'un endroit à l'autre. On comptera même la voiture, si on habite ici et qu'on va aller au nord, à faire tout le détour. Alors qu'à pied, je peux traverser mon lotissement dans tous les sens. En plus, il y a eu vraiment un aménagement intéressant qui a été mis en place, c'est qu'à des endroits, on a mis des petits talus, on a mis quelques petits aménagements tout simples, qui font que ces chemins et sentiers sont aussi des lieux de vie, redeviennent vraiment des communs, à des endroits où la population peut se rencontrer, les enfants jouer en toute sécurité, ou se déplacer pour aller de leur habitation au centre sportif. Donc vraiment réflexion au niveau de ces chemins arrière de jardin, qui souvent sont fermés par des propriétaires parce qu'ils ne veulent pas avoir un regard sur leur cuisine ou leur arrière de jardin. Donc expliquer, sensibiliser à l'intérêt de ceci. Réfléchir aussi aux différents types d'utilisateurs. C'est vrai que là, moi, je n'aborde pas les conflits d'usage, mais on s'imagine une personne avec une poussette et puis un vélo rentrer sur ce chemin, il peut avoir des conflits d'usage. Et donc, bien réfléchir aux différents utilisateurs et voir quel est le meilleur aménagement, quelle est la meilleure signalétique à mettre en place. Alors, cette photo, c'est sûr, c'est pas le super aménagement, mais c'est surtout pour vous montrer l'importance aussi de la gestion de ce qui est mis en place. Ici, on a un pont qui fait vraiment le lien entre deux quartiers. Ce pont est en train de se dégrader, il y a déjà une partie de la rambarde qui est tombée. Si on le laisse se dégrader, bien finalement, on risque d'avoir un vrai effet coupure entre deux quartiers. Et donc là aussi, dans tous les projets d'urbanisme, de réflexion au niveau des entretiens, bien avoir en tête que parfois, un un chemin, un pont est quelque chose de très important au niveau des liaisons douces entre les quartiers. Et ça, c'est les effets coupure, ça vaut pour les cours d'eau, ça vaut aussi pour les réseaux de chemin de fer. On a parfois des... Bon, maintenant, on n'a plus trop de construction de nouvelles lignes de chemin de fer, mais on a beaucoup de lignes de chemin de fer qui ont coupé des liaisons entre des villages. Et donc, avoir la réflexion sur est-ce que mon projet peut permettre d'avoir de nouveau une liaison entre deux quartiers, à rendre une ligne de chemin de fer, à rendre une rivière, un canal de nouveau perméable. Importance aussi de tout ce qui est l'information. Donc, ici, ça ne vous donne pas du tout l'impression que c'est une voirie publique, pourtant, c'en est une. Et donc, permettre, par exemple, d'avoir une signalétique qui indique que c'est quelque chose de public, c'est quelque chose d'important. On peut le faire aussi de manière assez simple, les fameux panneaux F45, donc voie sans issue. Dans certains cas, eh bien, on peut rajouter des logos indiquant qu'en fait, c'est une voie sans issue pour la voiture, mais ça ne l'est pas pour le piéton, le cycliste et même le cavalier. Je ne vais pas rentrer dans le débat par rapport à tout ce qui est trottoir, etc. Mais on insiste souvent en disant que le prolongement des chemins et des sentiers, ce sont des trottoirs. Si on veut avoir une réflexion qui soit cohérente par rapport aux chemins et sentiers, à la mobilité douce, notamment la mobilité piétonne, il faut aussi avoir une réflexion au niveau des trottoirs. Et bien la penser. Ici, on est dans un aménagement, on s'est dit on va mettre des poteaux pour empêcher les voitures de passer. Le problème, c'est que sur un trottoir d'un mètre cinquante, on avait mis des poteaux à 50 cm de la rigole. Pour ajouter à cela 20 cm de haie mal entretenue, et ça ne vous reste que quelques dizaines de centimètres pour passer pour le piéton. Deux personnes de front ne savent pas passer, deux poussettes ne savent pas se croiser. Donc ceci, c'était vraiment pour dire qu'il y a aussi une réflexion à avoir au niveau des aménagements. On est sur le même sentier. D'un côté, on a du contrôle social, on a un visuel qui est en fonction des façades qui peut être agréable ou non, mais de l'autre côté, on se situe vraiment dans quelque chose de très privatisé, qui devient vraiment insécure. Et donc là aussi, avoir une réflexion dans la mise en place des quartiers, qu'est-ce que j'ai, pas simplement mettre une liaison piétonne, mais réfléchir à son aménagement. En conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la marche, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose, et j'insiste là-dessus, qui est lié simplement au tourisme, à la randonnée. En tant que promeneur, en tant que cycliste, on essaye de toujours trouver les cheminements les plus directs, les plus faciles. On n'a qu'à faire une nouvelle place et voir par où les gens vont passer. Bien, on va voir s'ils veulent passer de la manière la plus rapide. Et donc ça, faut essayer dans tous les projets d'essayer de mettre le moins d'obstacles possible. Je pourrais citer l'article premier du décret qui indique bien que l'objectif du décret relatif à la voirie communale, c'est de préserver l'intégrité, la viabilité, l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage. Donc ça, c'est un texte de loi qui dit bien que quand on parle de voirie communale, il faut avoir un maillage de voirie communale. Il ne faut pas penser simplement les voiries de manière indépendante. Il faut faire en sorte qu'elles soient bien accessibles, viables. Vous l'avez vu, avoir aussi une réflexion à différentes échelles, à l'échelle de mon territoire, savoir tout ce qui existe, tout le potentiel de voirie, à l'échelle de mon quartier, voir les liaisons que je vais réaliser à l'intérieur de mon quartier et entre les différents lieux de vie, et aussi au niveau de la voirie, comment je vais aménager ma voirie pour qu'elle puisse être utilisée. Ça ne sert à rien de faire un cheminement entre deux pôles si finalement les 50 derniers mètres se font le long d'une nationale sans aucune sécurité. Bien avoir aussi en tête que les chemins et sentiers, je l'ai dit mille fois, mais ce n'est pas que pour le loisir, faire en sorte, quand on a des projets, que ces chemins et sentiers puissent être utilisés pour différentes fonctions. Pour la mobilité, mais aussi pour l'environnement, pour le patrimoine. On l'a vu ce matin, il y a beaucoup de choses que l'on peut découvrir dans nos régions en parcourant les chemins et sentiers qui font partie aussi de notre patrimoine. Et donc faire en sorte que les modes actifs, les modes de déplacement soient des choses bien agréables. Et en conclusion, j'ai envie de dire que là aussi, la marche, c'est pas quelque chose, je répète, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On entend trop souvent, oui, mais il y a la voiture, les gens ne referont pas marche arrière. C'est un constat, c'est pas une fatalité. Il y a des équipements qui sont possibles, le parapluie, on peut l'utiliser quand il pleut. Ne pas toujours écouter Facebook, parce que sinon je resterai toujours chez moi quand il pleut. Il fait noir et des problèmes d'obscurité, on peut mettre une chasuble, on peut se faire voir. Oui, marcher le long d'une nationale habillé en noir avec son chien noir à 11h, c'est dangereux. Mais mettre une chasuble, mettre une laisse réfléchissante, permet de faire en sorte que ça devienne